Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 10 novembre 2023, 19 Aban 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez à l'écoute. L'Iran travaille avec ses partenaires pour rétablir un système juste, affirme le président Raïsi. Téhéran met en garde contre les menaces nucléaires d'Israël et des manifestants pro-palestiniens prennent d'assaut le bâtiment du New York Times. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le président iranien Ebrahim Raïsi a déclaré que l'Iran soutenait sans condition l'Organisation de coopération économique ECO en tant que mécanisme de coopération économique le plus pertinent et le plus mature dans la région. Dans son discours à la tribune du 16e sommet de l'ECO qui s'est tenu jeudi à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, Raïsi a déclaré que Téhéran est déterminé à mobiliser davantage de ressources et d'énergie pour améliorer la coopération dans le cadre de l'organisation intergouvernemental, politique et économique asiatique. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran, avec le soutien et la coopération de nombreux pays indépendants et de ses partenaires internationaux, s'efforce d'établir un système juste fondé sur le respect et l'approfondissement de la convergence multilatérale, a-t-il déclaré. On vous lisait aussi en titre L'Iran met en garde contre les menaces nucléaires d'Israël. Dans une lettre adressée à Rafael Grossi, président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique à avertir le Conseil de sécurité des conséquences désastreuses de l'utilisation ou de la menace d'utilisation d'armes nucléaires par le régime israélien contre la population opprimée et sans défense de Gaza. Dénonçant les crimes du régime israélien à Gaza, le vice-président iranien et président de l'OIEA a exhorté le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, à réagir aux récentes déclarations menaçantes des responsables de Tel Aviv concernant l'utilisation des bombes atomiques comme une option pour attaquer le peuple opprimé de la Palestine et à en refléter les conséquences au Conseil de sécurité des Nations Unies. Toujours à Gaza, plusieurs hôpitaux ont été attaqués et 32 000 tonnes de bombes larguées par l'armée israélienne. Le régime israélien a mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes aériennes sur ou à proximité d'au moins 3 hôpitaux de la bande de Gaza, ont déclaré des représentants locaux. Des bombardements à même de nuire davantage à un système de santé débordé par des milliers de victimes et de déplacés. Selon l'agence de presse Shehab, les chars de l'armée du régime israélien ont été déployés autour des hôpitaux pédiatriques Al-Rantifi, Al-Nasr et Al-Ayoun à Gaza. L'occupation israélienne a lancé des frappes simultanées contre plusieurs hôpitaux au cours des dernières heures, a déclaré le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé à la chaîne de télévision Al Jazeera. Suite à ce nouvel acte barbare de l'armée israélienne, les habitants de la bande de Gaza et ses autorités sanitaires ont appelé à une intervention internationale immédiate pour limiter les catastrophes humanitaires en cours. Ainsi, l'hôpital Al-Rantifi, considéré comme le seul hôpital de traitement du cancer pour enfants dans la bande de Gaza, a été contraint de fermer en raison de son siège par les chars du régime israélien. Depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, environ 32 000 tonnes d'explosifs et plus de 13 000 bombes ont été larguées sur la bande de Gaza par le régime occupant, soit une moyenne de 87 tonnes par kilomètre, précise le communiqué. La fréquence des bombardements et des destructions dans l'enclave palestinienne sont sans précédent et plus de 50% des unités résidentielles à Gaza ont été endommagées, soit 40 000 unités résidentielles. Par ailleurs, Ashraf Al-Ketra a indiqué que l'armée israélienne a ciblé ce vendredi matin la cour de l'hôpital Shafa, le principal hôpital de la ville de Gaza. Des manifestants pro-palestiniens ont scandé jeudi dans les rues de New York et se sont dirigés vers le bâtiment du New York Times pour critiquer sa couverture de la guerre israélienne dans la bande de Gaza. Selon le Daily Mail, ils ont investi le hall du bâtiment du journal, brandissant des drapeaux palestiniens et une pancarte indiquant « Cessez-le-feu maintenant ». Ils ont lu les noms des personnes tuées à Gaza dans un journal intitulé « Les crimes de New York ». Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent qu'à l'extérieur, les véhicules de la police new-yorkaise étaient peints à la bombe avec des inscriptions « Free Gaza ». Les manifestants sont entrés dans le bâtiment du journal vers 17h heure locale avec des banderoles et des pancartes appelant à un cessez-le-feu à Gaza. À l'intérieur, ils ont accusé le personnel du journal de complicité avec le génocide commis par le régime israélien et ont scandé des slogans incitant le journal à dire la vérité. Un mois après le début de la guerre d'Israël dans la bande de Gaza, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Washington DC. La marche nationale sur Washington pour une Palestine libre a vu les pro-palestiniens affluer sur la Freedom Plaza avant de se diriger vers la Maison Blanche. Les manifestants ont également exigé la fin de l'aide américaine à Israël. Autre action pro-palestinienne marquante en ce début du mois de novembre, des centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés le 7 novembre dans le port de Tacoma, dans l'État de Washington, pour bloquer un navire de ravitaillement militaire qui, selon eux, transportait des armes américaines à destination d'Israël. Suite du journal, des drones ont frappé la base aérienne d'Al-Arir dans la région du Kurdistan irakien où sont stationnées des forces militaires et des avions américains dans un contexte de soutien indéfectible de Washington aux attaques israéliennes sur la bande de Gaza. La résistance islamique en Irak, un groupe de combattants antiterroristes, a revendiqué jeudi dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram la responsabilité de l'attaque contre la base aérienne d'Al-Arir, située à 45 km au nord de l'aéroport international d'Erbil, au nord d'Irak. Il a indiqué que deux drones avaient été lancés vers la base et avaient directement touché leur cible. Le groupe a ajouté que l'opération était intervenue en représailles au soutien américain à la campagne militaire sanglante d'Israël dans la bande de Gaza, où plus de 10 800 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués. Aucun rapport n'a été publié dans l'immédiat sur l'étendue des dégâts. Plus tôt, Abou Ala al-Walahi, secrétaire général du groupe de résistance antiterroriste Kataeb Saïd al-Shouada en Irak, a souligné que les représailles des combattants de la résistance irakienne contre les forces d'occupation américaines se poursuivraient sans relâche. Il a affirmé que les frappes contre les positions militaires américaines en Irak ne cesseront que lorsque les frappes israéliennes sur Gaza prendront fin et que les convois d'aide humanitaire atteindront les habitants de l'enclave côtière palestinienne sans aucune restriction. De même, les forces armées du Yémen ont annoncé avoir mené une nouvelle opération militaire contre le régime israélien, conformément à leur promesse de poursuivre les frappes aussi longtemps que le régime sioniste poursuivra sa guerre dans la bande de Gaza. Jeudi, les forces armées yéménites ont tiré un lot de missiles balistiques sur diverses cibles sensibles situées dans la partie sud des territoires occupés de la Palestine, a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, dans un communiqué. « Nous continuerons de cibler Israël jusqu'à ce qu'il cesse son agression contre Gaza », a ajouté le porte-parole. Il s'agissait notamment de cibles militaires dans la région d'Oum al-Rachrach, dans la ville d'Elat, ajoute le rapport. Sari a également confirmé que l'opération avait atteint ses objectifs et entraîné des pertes directes, a-t-on appris de la même source. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. les Américains contre le génocide des Palestiniens, la politique belliciste de Biden se retourne contre lui. C'est de quoi on va parler dans ce commentaire politique. Les tentatives flagrantes du gouvernement et des masses médias américains de relayer les mensonges ridicules d'Israël sur le génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée se sont sérieusement retournées contre les États-Unis. Ces tentatives ont notamment consisté à présenter comme victime le régime d'occupation qui pourtant, depuis le 7 octobre dernier, a semé le chaos dans l'enclave côtière, l'un des endroits les plus densément peuplés avec de 2,2 millions d'habitants. Mais cette fois, les Américains ont refusé de tomber dans le piège et sont venus en grand nombre dans différents États, dont Washington DC, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens et condamner le régime israélien. La protestation massive contre les attaques génocidaires du régime israélien et le soutien continu de Washington, qui s'est engagé à fournir 14 milliards de dollars supplémentaires d'aide militaire à Tel Aviv, ont rassemblé plus de 150 000 personnes de diverses confessions et nationalités à travers les États-Unis. Il est largement admis que cette marque de solidarité avec le peuple opprimé palestinien de la bande de Gaza résulte directement de la campagne de propagande menée par les médias américains en vue de blanchir le régime d'Israël de ses crimes de guerre. Cette campagne est la déclaration de soutien total à la machine de guerre de Tel Aviv par les autorités américaines se sont heurtées à d'intenses protestations sur les réseaux sociaux, alors que les médias américains parrainés par l'État ont commodément ignoré ou censuré les rassemblements organisés contre le génocide de Gaza dans les principales villes des États-Unis. Il n'était plus possible d'ignorer la dernière et immense manifestation pro-palestinienne à Washington. Des manifestations en soutien au peuple palestinien ont également eu lieu dans d'autres États américains, notamment en Californie, à New York, dans l'Ohio, en Utah, au Michigan et en Pennsylvanie. Une telle vague de soutien à la Palestine s'est manifestée malgré les tentatives d'un réseau massif de groupes de pression pro-israéliens et d'institutions de propagande à travers les États-Unis d'identifier et de mettre sur liste noire les manifestants comme étant antisémites, entraînant leur licenciement potentiel. Par ailleurs, l'État de New York abrite la plus grande population de juifs sionistes des États-Unis qui partagent des liens étroits avec le régime israélien et détiennent la double nationalité. Ce clivage entre la population et le gouvernement s'ajoute aux divisions croissantes qui règnent entre les politiciens et les représentants du Parti démocrate au pouvoir. Ces divisions sont surtout alimentées par les efforts déployés par l'administration Joe Biden pour défendre et justifier le génocide dans la bande de Gaza par le régime sioniste. C'est alors que le média pro-israélien Axios, considéré par beaucoup comme affilié au parti au pouvoir, a rapporté la semaine dernière que l'équipe politique de Biden est dans la tourmente à cause de la guerre du régime sioniste avec le groupe de résistance Hamas. Les démocrates pro-palestiniens, concède-t-il, sont indignés du carnage persistant à Gaza et estiment qu'il est facilité par le soutien ouvert de Biden du régime de Tel Aviv. De nombreux juifs libéraux, en revanche, sont furieux que tant de démocrates progressistes ne soient pas plus indignés par l'opération militaire sans précédent du Hamas qui a infligé de lourdes pertes à l'armée israélienne et menace de quitter le parti. Le rapport souligne en outre que près de 20% des 300 employés du Comité national démocrate, DNC, ont signé une lettre appelant leur patron, c'est-à-dire M. Biden, à exiger un cessez-le-feu. Le rapport décrit ensuite l'équipe de planification de la guerre de Biden comme pro-israélienne à tous les niveaux, mais s'empresse d'avertir que les hauts responsables de l'administration savent que leur propre parti n'est décidément pas favorable au régime de Tel Aviv et reste profondément divisé sur le leadership israélien et la stratégie à Gaza. La décision précipitée de l'administration Biden et de l'empire médiatique américain de soutenir et de justifier ouvertement le terrorisme brutal israélien contre la population civile sans défense de Gaza est une erreur qui se retourne déjà entre eux. En fin de compte, cela révélera la nature véritable et historique de la politique étrangère américaine consistant à perpétrer et à justifier les agressions militaires, des ingérences étrangères, des crimes de guerre et du racisme à travers le monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Bien sûr, nous allons parler des crimes commis par Israël contre la bande de Gaza et en Cisjordanie. Justement, des propos très déplacés d'un ministre israélien. Il s'agissait du ministre israélien du patrimoine qui a menacé la bande de Gaza de larguer une bombe atomique. Le ministre iranien des Affaires étrangères est entré en scène et a dit qu'il faudrait désarmer militairement de façon nucléaire Israël afin qu'il ne puisse pas donc menacer de donner de telles menaces à l'encontre de la bande de Gaza. Alors, il est caché pour personne que Israël veut s'approprier de la bande de Gaza et construire des colonies. Et nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Réagissant à la menace d'utiliser la bombe atomique contre la bande de Gaza par un ministre israélien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le régime de Tel Aviv a subi une véritable défaite face au front de la résistance. Le chef de la diplomatie iranienne a appelé lundi 6 novembre dans un poste sur X au désarmement nucléaire du régime barbare et apartheid après que le ministre israélien du patrimoine Amichai Eliyahu a déclaré que le largage d'une arme nucléaire sur Gaza était l'une des possibilités dans la guerre en cours contre l'enclave assiégée. Les commentaires du ministre du régime israélien sur l'utilisation de la bombe atomique montrent la véritable défaite de l'entité face à la résistance, a déclaré le plus haut diplomate iranien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique doivent entreprendre des mesures immédiates et ininterrompues pour désarmer ce régime barbare et d'apartheid. Demain, il sera tard. La Maison-Blanche porte l'entière responsabilité de ce génocide, a prévenu le ministre. Les attaques continues d'Israël compliquent la situation dans la région, conduisant les forces de la résistance à ouvrir de nouveaux fronts. Pour nombreux commentateurs et autorités politiques, la menace du ministre israélien de larguer une bombe nucléaire sur la bande Gaza assiégée reflète une intention de commettre un nettoyage ethnique et un génocide contre les Palestiniens. Le ministre israélien du patrimoine, Amichai Eliyahu, a appelé il y a quelques jours au largage d'une bombe nucléaire sur Gaza. L'armée israélienne mène depuis plus d'un mois une guerre destructrice contre Gaza au cours de laquelle plus de 10 000 Palestiniens, dont plus de 4 000 enfants et plus de 2 600 femmes, ont été tués et plus de 25 000 autres ont été blessés, selon des sources officielles palestiniennes. Après cette menace flagrante évoquée par le ministre israélien, la question pure et simple c'est « Est-ce que le moment n'est pas venu pour que la communauté internationale se réveille face à la menace que représente l'agression israélienne pour la paix, la sécurité et la stabilité régionale ?»
Eh bien voilà pour le reportage, un reportage qui démontre les actes barbares du régime sioniste à l'encontre des Palestiniens. Alors comme j'ai promis, nous avons deux invités, en commençant par Gada Oubala. Il s'agit universitaire à l'Université islamique de Beyrouth et géopoliticienne. Madame Gada Oubala, bonjour.
Oui, bonjour à vous et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Presse TV.
Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation.
Arnaud.
Oui, tout le plaisir est pour nous. Restez avec nous, je vous prie. Un grand bonjour à Arnaud Develay, maître et juriste international qui est avec nous et également expert des questions internationales. Bonjour, Monsieur Develay.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Voilà, alors nous démarrons le débat, un débat qui s'annonce prometteur. Il s'agit bien sûr des crimes commis qui n'en finissent pas dans la bande de Gaza par le régime sioniste. Ma première question va s'adresser à Gad Ahubala qui est avec nous depuis Beyrouth. Alors, menacer la bande de Gaza de larguer une bombe atomique venant d'un ministre du patrimoine, est-ce qu'on devrait prendre au sérieux cette menace, à votre avis?
Prendre au sérieux, est-ce que c'est faisable? C'est la véritable question. Est-ce que c'est dans la doctrine nucléaire de l'entité sioniste? Bon, disons que ce qu'a prononcé le ministre israélien de recourir à la bombe nucléaire à Gaza, même s'il a été sanctionné après avoir évoqué la bombe, en fait, il reflète, à mon avis, le désir de tout l'établissement militaire israélien, mais aussi sans doute de certaines puissances européennes et de la puissance américaine. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la doctrine nucléaire israélienne se résume en ces termes, c'est que la rationalité stratégique de l'acquisition de l'arme nucléaire par l'entité sioniste s'explique par, d'un point de vue théorique, d'une part, l'absence de profondeur stratégique d'Israël le rend très vulnérable à une attaque conventionnelle, et donc elle laisse aux responsables israéliens un temps de réaction extrêmement bref, et d'autre part, la prépondérance démographique des voisins de l'entité sioniste place ce pays, entre guillemets ce pays bien entendu, dans une position d'infériorité stratégique chronique, même s'il dispose de toutes les armes de destruction massive qui sont interdites par le droit international humanitaire. Dans les faits, l'entité sioniste n'a jamais reconnu posséder l'arme nucléaire, sauf que, et en plus, elle ne fait pas partie du traité de non-prolifération nucléaire. Elle n'a jamais affiché de stratégie de dissuasion. C'est en 1961 que la doctrine d'ambiguïté nucléaire israélienne a été formulée par Shimon Peres. Alors, à l'époque, il était adjoint du Premier ministre David Ben-Gurion quand il a déclaré, et là je cite, qu'Israël ne serait pas le premier pays à introduire l'arme nucléaire au Moyen-Orient. En fait, si, jusqu'à ce jour, c'est le cas, puisqu'on ne peut pas considérer que la République islamique de l'Iran fait partie du Moyen-Orient au sens géographique. Elle est plus du côté du Proche-Orient. Et encore, elle ne dispose pas de bombes nucléaires ou elle dispose de capacités nucléaires à des fins pacifiques. Donc, telle est, je reviens à l'entité sioniste, telle est depuis lors la ligne adoptée par tous les gouvernements israéliens. Elle a été ensuite complétée en 1981 par la doctrine Begin, qui a été définie en fait suite, ou plutôt lors de la frappe par l'aviation de l'occupation israélienne du réacteur de recherche irakien aux Irak, qui était livré par la France, producteur de plutonium. À cette occasion, à l'époque, le Premier ministre israélien Menachem Begin déclara qu'Israël bloquerait toute tentative de ses adversaires d'acquérir des armes nucléaires, et c'est ce qu'elle fait actuellement, c'est ce qu'elle fait à travers les accords nucléaire entre la République islamique de l'Iran et les États-Unis et l'Europe. Et l'un des objectifs, je dirais même le seul objectif pour le Premier ministre Netanyahu, à travers un élargissement ou une escalade de la bataille, c'est-à-dire que la bataille qui a commencé à Gaza se répande sur la frontière libano-palestinienne pour jusqu'à arriver à l'Iran et pour qu'il y ait un conflit direct opposant les États-Unis et l'Iran. On sait très bien que, à diverses occasions, le Premier ministre n'a pas caché qu'il a demandé à plusieurs reprises, que ce soit à l'époque de Trump ou l'époque de Obama ou aujourd'hui, de pouvoir avoir la permission de bombarder les sites nucléaires iraniens parce que cela constitue la première menace. Et aujourd'hui, absolument, cette guerre lui donne cette occasion. Et on comprend pourquoi il essaie à chaque occasion. Il essaie à chaque occasion sur le terrain. C'est-à-dire qu'il provoque le Hezbollah. Il veut provoquer l'axe de la résistance pour les entraîner dans une guerre en commettant de plus en plus de crimes qui ne sont plus de crimes de guerre, ni de crimes contre l'humanité. C'est vraiment des génocides. Ce sont vraiment des crimes qui ressemblent à l'Holocauste.
Absolument,
ils se sont surpassés par rapport à ce qu'ils ont subi, entre guillemets subi, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument. Maître Arnaud Develay, Madame le Docteur Ghadab Koubala a presque tout dit, a développé la question. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur cette menace du ministre du patrimoine israélien qui a menacé de larguer une bombe atomique. Est-ce qu'on peut... Enfin, beaucoup d'experts politiques pensent que quand on menace de larguer une bombe atomique, ça veut dire minimiser cette menace en lançant des missiles très importants sur la bande de Gaza. Est-ce que c'est possible?
Ouais, tout d'abord, je souhaiterais préciser que le ministre en question, dont on avait pu entendre qu'il avait été suspendu, il a été suspendu des consultations du cabinet, mais il n'a pas été démis de ses fonctions déjà. Donc, quelque part, ce qu'il a pu lâcher est plus ou moins sanctionné par le gouvernement actuel, du cabinet actuel. Et ça inclut apparemment des membres de l'opposition. Et ça inclut incidemment Anthony Blinken, qui, il faudrait aussi le souligner, a été intégré dans ce cabinet dit de guerre. Donc les États-Unis, juridiquement, quelque part, en gardant Blinken dans cet attelage, sanctionnent ce genre de déclaration. Deuxième point, s'il se laisse aller à dire ce qu'il dit, c'est que ça veut dire deux choses. La première, c'est que l'ambiguïté stratégique dont parlait Dr Gabala, c'est complètement maintenant réduit à néant, puisque ça veut dire que c'est une mission tacite qu'il possède des armes nucléaires. Et autre point, c'est que juridiquement, avoir un membre d'un cabinet, quel qu'il soit, prononcé, ne serait-ce qu'éventualiser l'usage d'une bombe nucléaire sur des civils, indépendamment du fait que, et Dr Gabala avait encore raison quand elle dit qu'il n'y a pas de profondeur stratégique, donc l'entité sioniste elle-même serait réduite à néant, laisse entendre que ces gens-là sont irresponsables et que cette notion selon laquelle le droit à l'autodéfense, qu'on passe notre temps à nous bassiner, aucun pays n'a le droit à se défendre s'il n'agit pas dans les règles du droit international bien comprises, que ce soit le droit international coutumier ou le droit international des traités. Or, je rappelle que l'entité sioniste prétend être membre de la communauté internationale et qu'elle n'a eu de cesse de violer les résolutions qui ont été adoptées, que ce soit par l'Assemblée générale ou éventuellement par le Conseil de sécurité, pour peu que le veto américain ne les ait pas empêchés d'être effectifs. Donc, c'est un régime voyou. Ça fait écho à ce que disait à l'époque Moshe Dayan en 73, où il avait bien expliqué que c'était la stratégie de l'entité sioniste de faire en sorte que le monde les perçoive comme un chien fou, dont on sait ce qu'il est capable de faire. Et quand on sait maintenant que ce cabinet actuel est composé des éléments les plus radicaux de la mouvance kahaniste, qui sont véritablement ce que Ajo Mayer a lui-même décrit comme des judéo-nazis, hein, on est vraiment arrivé au stade terminal et on peut être légitimement inquiet. Et je rejoins en cela Dr Dibala quand elle dit qu'ils sont de toute façon le dos au mur parce que la résistance palestinienne fait mieux que se défendre. Elle est en train de changer l'équation sur le terrain. Et donc le mythe de l'invisibilité de l'armée d'occupation est lui-même maintenant menacé dans ses fondements. Et on peut penser que dans cette logique de fuite en avant, effectivement, tout soit fait pour élargir le conflit.
Oui, tout à fait. Ghadab Koubala, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de Maître Arnaud Develay, je vous prie?
Comment voulez-vous que je réagisse, puisque je suis tout à fait d'accord avec lui de toute façon. Donc, si vous voulez bien me poser une autre question concernant justement
justement,
dossier, je vous écoute.
Oui, absolument. Docteur Ghadab Koubala, en vous écoutant, ça me fait penser à cette ironie. qu'un pays tel que les États-Unis, qui a déjà utilisé l'arme nucléaire sur le Japon, et Israël, qui menace de larguer une bombe sur la bande de Gaza, donc, qui donc possède l'arme nucléaire, donc menace l'Iran, qui ne possède pas d'arme nucléaire, qui utilise le nucléaire à des fins purement pacifiques, se permet donc de menacer la bande de Gaza de larguer une bombe atomique. Est-ce que vous ne voyez pas une ironie dans tout ça ?
Pas seulement une ironie, le mot est un peu faible, je dirais plutôt une hypocrisie et un sentiment de un petit peu mesquin. Voire ils se moquent complètement du droit international public. Moi, quand j'enseigne cette matière, malheureusement, surtout actuellement, j'ai le sentiment d'être un petit peu hypocrite vis-à-vis de mes étudiants, parce que si on lit le cours de droit international public, c'est un cours en fait où il y a le principe de non-intervention, le principe de défense, le droit à l'autodétermination des peuples, la souveraineté, le principe de l'égalité entre les États. Donc, ce sont des principes politiques qui, en fait, sont des sources du DIP, du droit international public. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à travers les propos des responsables israéliens, même les propos des responsables israéliens sont des propos qu'on n'aurait jamais cru entendre émanant de responsables diplomatiques, c'est-à-dire de responsables qui occupent des postes de responsabilité. Généralement, un homme d'État doit avoir un discours plus ou moins acceptable, ne serait-ce qu'au niveau des notions, au niveau du droit international public. Or, actuellement, quand on voit un ministre il est nommé ministre du patrimoine israélien. Quel patrimoine? Et je me demande, mais c'est le patrimoine palestinien. Déjà, la seule nomination de ce ministre, le poste, le portefeuille ministériel de ce ministre est inadéquat. Et c'est une insulte même aux droits des Palestiniens, d'une part. Et le fait d'avoir proféré de tels propos, encore, c'est une insulte au gouvernement, pas seulement à la notion même de l'État en tant qu'État démocratique. Mais ce qui est intéressant dans tout ce qui se passe actuellement, c'est que enfin ils osent s'exprimer ainsi, parce qu'ils ont en fait de révéler que cet État entre guillemets qui est l'État d'Israël, ils voulaient en fait, répondre à un État ayant une forme démocratique, c'est arrivé être antidémocratique, raciste.
Tout à fait.
Et pire, moi je me demande où sont les droits, les organisations qui défendent les animaux. Quand on voit un ministre de la guerre, je ne dirais pas un ministre de la Défense, ou un ministre de l'Intérieur israélien, qui compare en fait les Gazaouis en animal. Je veux bien accepter, mais où sont les droits des animaux? S'il y a un chat qui se tord le cou parce qu'il est tombé d'un arbre, vous verrez les médias en train de couvrir cela comme un événement. Bon, alors que par rapport aux Gazaouis, comment ils sont en train d'être traités? Pire que des insectes, non pas comme des animaux. Si vraiment je vais les comparer à des animaux et faire appliquer le droit des animaux.
Absolument, oui, tout
donc,
à fait.
Donc malheureusement, nous sommes devant un gouvernement, je dirais, fasciste qui a le soutien des États-Unis. Mais ce qu'il faudrait analyser, c'est pourquoi il agit ainsi, hormis le fait que c'est sa nature, etc., etc. Je rappelle toujours dans toutes les apparitions que je fais, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que Tzahal en hébreu signifie l'honneur de la nation juive. La nation juive ne peut voir le jour que si elle applique la représentation géopolitique d'Israël, c'est-à-dire le grand projet israélien. Et donc, en l'an 2001, c'est-à-dire après la libération de l'an 2000 de Liban Sud, vous avez un texte, plutôt un livret, qui est sous-titré « Israël, une identité nationale en crise », qui a été écrit par Alain Diakov, qui est paru du centre d'études la documentation française. Et à l'intérieur de ce livret, vous avez plusieurs articles écrits par des experts israéliens.
Absolument.
Et à l'époque, ils étaient en train de dire qu'en fait, le grand projet Israël est tombé à l'eau à cause justement de la libération de l'an 2000. Donc depuis l'an 2001, vous avez une crise au sein de l'identité nationale en Israël, et cela a été explosé complètement le jour du 7 octobre. Donc c'est en fait, on est passé d'une guerre des volontés entre les peuples jusqu'à l'an 2000, jusqu'à aujourd'hui on est dans une guerre des identités.
Absolument.
Et c'est ce qui est en train de mettre, c'est ce qui est en jeu actuellement.
Oui. Madame Gadaoubala nous a parlé de la réaction de la communauté internationale à l'égard de cette menace ou même de ces crimes à l'encontre de la bande de Gaza. Maître de Velay, comment vous expliquez cette réaction, donc ce peu de réaction de la part de la communauté internationale, surtout des États-Unis et des Occidentaux, vis-à-vis de cette grande menace? Imaginez qu'un autre pays avait menacé un autre pays de larguer une bombe atomique. Quelle serait la réaction de la communauté internationale?
Tout d'abord, quand on parle de la communauté internationale, on parle des 13 à 15% que représente l'Occident collectif. Hein, donc les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, à un certain degré le Japon peut-être, mais voilà. Donc ça représente en fait rien du tout. Et ça représente surtout une faillite morale sans précédent de la part de ces pays, parce que ils ont eux-mêmes couvé ce régime pendant des décennies. La France a fourni l'arme nucléaire. Les États-Unis ont fourni la couverture diplomatique au Conseil de sécurité, plus de l'aide annuelle estimée à 3 milliards de dollars. On apprend là récemment, en dépit de ce qu'on nous avait dit sur l'Ukraine, maintenant c'est l'entité sioniste qui prend la priorité, avec des centaines de millions, je crois même qu'il y a 10 milliards de dollars qui viennent d'être annoncés pour l'entité sioniste. Donc en fait, tous ces pays-là sont complices de ce régime. Et pour peu qu'on puisse un jour avoir un tribunal international qui sera mis en place pour juger ce qui se passe actuellement, les dirigeants de ces pays auront leur place au banc des accusés. Ça, c'est, pour moi, c'est clair. Il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le sujet. Maintenant, le problème, c'est effectivement, il faut aussi voir l'aspect économique. On rappellera à nos auditeurs et téléspectateurs qu'en 2000, ont été découverts des gisements gaziers très, très importants au large des côtes gazaouis, et que, visiblement, il semblerait que, malgré le contrat qui avait été mis en place avec une compagnie d'exploitation pétrolière britannique, ce contrat expire en 2024 et il a été question, je crois, entre l'autorité palestinienne et la Fédération de Russie de peut-être travailler conjointement pour l'exploitation de ces sites. Donc on peut penser que ce n'est pas une coïncidence si les choses ont été mises en place, si je puis dire, le 7 octobre pour justifier un nettoyage ethnique qui permettrait à l'entité sioniste de essentiellement gérer les côtes gazaouis.
Absolument.
Et donc pouvoir légalement prétendre au contrôle de ces sites gaziers, ce qui permettrait ensuite à l'entité sioniste de devenir une puissance exportatrice.
Absolument. Maître Arnaud de Velay, expert des questions internationales, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Madame le docteur Gadaoubala, universitaire à l'Université islamique du Liban, géopoliticienne, qui a répondu à nos questions. Espérons que les complices de ces crimes seront jugés un jour. Eh bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les crimes commis par l'entité sioniste contre la population civile à Gaza. des responsables de la bande de Gaza secouée par une guerre extrêmement meurtrière et dévastatrice lancée par le régime d'Israël ont déclaré que l'agression du régime occupant avait jusqu'à présent détruit 70% des réseaux électriques de la bande côtière. Le chef de l'autorité de l'énergie, Jamal Ismail, a déclaré dans un communiqué publié par le bureau médiatique de l'autorité palestinienne que 70% des réseaux de transfert et de distribution d'électricité ont été détruits. La seule centrale électrique de la bande de Gaza s'est arrêtée, faute de carburant. Les pertes sont estimées à plus de 80 millions de dollars. Ce rapport intervient 34 jours après le début de la guerre dans la bande de Gaza, qui a suivi une opération surprise du Hamas contre les territoires occupés baptisée Opération Tempête d'Al-Aqsa, en représailles aux crimes commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens. L'objectif d'Israël est de couper toutes les sources d'énergie à Gaza pour en faire un endroit inhabitable, avait-il indiqué plus tôt. Même avant la guerre, le réseau électrique fournissait moins de la moitié des besoins en électricité de Gaza, qui, dans des circonstances normales, s'élève à 550 mégawatts. Au moins 10 569 Palestiniens, dont 4 324 enfants et 2 823 femmes, ont été tués en martyrs jusqu'à présent dans les attaques aériennes et terrestres israéliennes. Lundi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti qu'en raison des violations flagrantes du droit international et des droits humains, la bande de Gaza était en train de devenir un cimetière pour les enfants. Les opérations terrestres menées par l'armée israélienne et les bombardements continus frappent des civils, des hôpitaux, des camps de réfugiés, des mosquées, des églises et des installations des Nations Unies, y compris des abris. Personne n'est en sécurité, a-t-il déclaré aux journalistes. L'hôpital Al-Rots, le principal hôpital de la bande de Gaza, a cessé ses services essentiels aux patients en raison d'une pénurie de carburant et des bombardements intensifs des zones alentour. L'hôpital, situé dans le quartier de Tal al-Hawa, a été contraint d'arrêter la plupart de ses services pour rationner la consommation de carburant et assurer un niveau minimum de service dans les prochains jours. La porte-parole de la Société du Croissant Rouge palestinien, Nebal Farsak, a déclaré que les autorités hospitalières craignent que l'hôpital ne devienne une cible directe des frappes aériennes israéliennes dans les prochains jours. La plupart des bâtiments autour de l'hôpital ont été presque entièrement détruits. Les bombardements se rapprochent de plus en plus de l'hôpital et nous craignons qu'ils soient directement touchés, a-t-elle averti. Les autorités sanitaires de Gaza avaient auparavant mis en garde contre la pénurie de carburant dans les hôpitaux, due au blocus et aux bombardements quotidiens israéliens. Selon le ministère de la Santé, 18 hôpitaux ont été fermés depuis le 7 octobre. Le régime israélien a renforcé le blocus à Gaza, un territoire palestinien de plus de 2 millions d'habitants situé au bord de la mer Méditerranée. Pour mémoire, plus de 500 Palestiniens, dont plusieurs femmes et enfants, ont été tués dans la seule journée du mercredi 18 octobre, dans une attaque aérienne contre l'hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza. Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé a fait état de 9 Palestiniens tombés en martyr et 15 blessés après les attaques de l'armée israélienne contre Jenin en Cisjordanie. Lors de l'attaque lancée par les militaires israéliens contre Jenin en Cisjordanie, 9 Palestiniens sont tombés en martyr et 15 autres ont été blessés, a rapporté le ministère palestinien de la Santé jeudi 9 novembre. Quant au mouvement du djihad islamique, il a annoncé que les agressions barbares perpétrées par les militaires israéliens contre les villes, les villages et le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie révèlent la défaite de l'ennemi qui tente vainement de la dissimuler en massacrant davantage d'innocents. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a appelé tous les Palestiniens vivant en Cisjordanie et à tous ceux qui peuvent prendre les armes à intervenir pour briser le blocus de Jenin et à se battre contre les militaires israéliens, a rapporté Al-Mayadin. Avertissant que la guerre du régime israélien ne vise pas seulement le Hamas, mais tout le peuple palestinien, le premier ministre de l'autorité palestinienne, Mohamed Chetayeh, a déploré la mort de 6 enfants et de 7 femmes palestiniens par heure. Selon Al Jazeera, le premier ministre de l'autorité palestinienne a déclaré que les douleurs et souffrances du peuple palestinien n'avaient pas commencé le 7 octobre, mais avec leur déplacement il y a 75 ans. Lors d'un discours à Ramallah, il a ajouté « Les tentatives des occupants pour pousser le peuple palestinien à la migration forcée n'ont pas cessé jusqu'à ce moment. La guerre du régime israélien d'occupation n'est pas seulement dirigée contre le Hamas, mais contre le peuple palestinien tout entier. » Depuis le début de cette année, 250 Palestiniens sont tombés en martyr en Cisjordanie par les forces d'occupation. Distribuer 27 000 armes aux colons israéliens signifie délivrer l'autorisation de tuer des Palestiniens, a-t-il affirmé. L'aide humanitaire doit être envoyée dans toutes les zones de la bande de Gaza, pas seulement dans les zones du sud. Nous sommes contre la construction de camps dans les zones sud de la bande de Gaza, car cette action videra les zones nord de la bande de Gaza de leurs habitants d'origine, a-t-il précisé. Selon le premier ministre de l'autorité palestinienne, le nombre de civils morts en Palestine durant le mois dernier a dépassé celui du conflit en Ukraine. Les attaques lancées par Israël contre la bande de Gaza ont déjà fait plus de victimes parmi les civils que le conflit ukrainien, a-t-il déploré. Le ministère de la Santé de Gaza avait annoncé un bilan de 10 569 morts en Palestine, dont 4 324 enfants et 2 823 femmes, avec plus de 26 000 blessés. Selon les estimations de l'ONU, les besoins d'aide pour la population de Gaza et de la Cisjordanie s'élèvera à 1,2 milliard de dollars d'ici la fin 2023.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.